Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour ou bien rebonjour. Son terrain de jeu, c'est au choix l'espace, la vie ou même le monde. Il suffit de ne rien s'interdire. La designeuse Mathalie Crasset enchaîne les projets. Une lampe, un hôtel, un manège, un camion musée, un kiosque à journaux. En déconstruisant bien souvent les idées reçues et en proposant des possibilités de vie, Mathalie Crasset est reconnue dans le monde entier et l'invitée de Culture Média dans une dizaine de minutes. Pas de lundi sans un indispensable. Ce matin, Margot Barallon va vous recommander une série australienne sur Netflix. La série s'appelle Stateless. Première page, vous découvrez ce matin Sexy Summer de Mathilde Allais chez Flammarion. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, belle matinée à vous. Attention, on vous l'a dit, ça va chauffer. La deuxième heure de Culture Média commence maintenant et le journal de la culture est enclenché. Bonjour Damien Caprespine.
Bonjour Pascal.
Comment s'est passé le week-end?
Ah, très très bien. Et
c'est
vous?
Vrai?
Ouais.
Moi, parfait.
Ah,
trop,
super.
Trop bien. Au sommaire aujourd'hui.
Au sommaire, trois légendes qui s'en vont. Un appel d'Abdelmalik, la plus belle paire de fesses au monde. Oh. Et des oiseaux qui rigolent, mais ça, je ne vous en dis pas plus. On en reparle dans 4-5 minutes.
On commence donc avec trois disparitions qui ont été annoncées ce week-end.
La disparition de trois artistes avant-gardistes. Alors, la comédienne Olivia de Havilland, le couturier japonais Kanzai Yamamoto et le cofondateur du groupe Fleetwood Mac, Peter Green, qui avait signé notamment ce titre, Black Magic Woman, en 1969. Got a black magic woman. Peter Green a marqué l'histoire de la musique avec ce riff de guitare et cette chanson. À l'annonce de sa mort samedi, de nombreuses personnalités de la musique ont tenu à lui rendre hommage, notamment Cat Stevens, qu'il a présenté comme un héros méconnu et qui a salué ses inventivités musicales, un avant-gardiste, on vous le disait. De son côté, Olivia de Havilland, inoubliable Mélanie dans Autant en emporte le vent, a permis aux actrices de l'âge d'or hollywoodien de s'émanciper face à l'emprise des studios. En 1943, elle était en effet entrée en guerre contre la Warner, qui l'a cantonnée à des rôles d'ingénue. Et en gagnant un procès contre le studio, elle a créé une jurisprudence dans la défense du droit des acteurs. Et elle a par ailleurs été la première femme présidente du jury au Festival de Cannes en 1965. Et alors, dernier avant-gardiste pour le couturier Kanzai Yamamoto, l'avant-garde, elle se situe plutôt du côté de sa réinterprétation du vestiaire japonais. On se souvient notamment, vous vous souvenez sûrement, Pascal, des kimonos que portait David Bowie à l'époque de Ziggy Stardust. Mm-hmm. Ils étaient signés par Yamamoto. Alors, ces trois artistes auront donc chacun à leur manière marqué l'histoire de l'art contemporain et pour ça on dit respect.
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 Total. À Mulhouse, le rappeur Abdelmalik lance un appel.
Oui, un appel pour un spectacle. Mulhouse est aujourd'hui une cité meurtrie par la crise du Covid-19 et la Filature, un haut lieu de la vie culturelle alsacienne, vient de demander au rappeur de lire sur scène les 22 et 23 septembre prochains des lettres que des Mulhousiens vont adresser à leur ville. Alors pourquoi Abdelmalik? Car il est originaire d'Alsace et il est très profondément attaché à cette région. Écoutez, il nous en dit un peu plus sur cette initiative.
L'idée, c'est qu'on puisse partager ensemble. L'idée, c'est qu'on puisse faire peuple. L'idée, c'est qu'on puisse se donner de l'espoir les uns les autres. Et je suis impatient de partager ce moment avec vous.
Les Mulhousiens doivent donc adresser leur missive à la Filature avant le 15 août. Une cinquantaine d'entre elles seront par la suite déclamées et mises en musique par Abdelmalik. Et alors, si ça vous intéresse, toutes les informations et les modalités de participation sont à retrouver sur le site www.lafilature.org.
C'est vrai, faisons peuple. Sur Internet, des musées du monde entier se sont lancés dans une drôle d'initiative.
Oui, car circonstances obligent, la fréquentation des musées est en baisse. Alors, en attendant, un conservateur d'un musée archéologique situé en Grande-Bretagne a eu l'idée de lancer un challenge sur internet, le hashtag Best Museum Bum, ou si vous préférez, hashtag La plus belle paire de fesses de musée. Il a donc posté sur Twitter la photo d'une statue représentant un athlète romain, de dos et dénudé, bien évidemment. Une photo prise dans son musée, et immédiatement, ses collègues du monde entier ont réagi en postant à leur tour des photos de fessiers issus de leur collection. Alors, on se croirait dans une chanson de Pierre Perret. Il y en a des petits, des gros, des avachis, des amochés, des tombants, des affossettes, des musclés, des très, 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 très beaux. Il y en a vraiment pour tous les goûts. En France, le château de Vitré en Bretagne, le musée du Quai Branly et celui des arts et métiers ont participé à ce challenge. Alors, vous me connaissez, Pascal, je suis très professionnel.
Donc vous avez testé, alors.
J'ai bah tout ouais. Parcouru consciencieusement toutes ces publications ce week-end et mon verdict est sans appel. Je décerne officiellement et au nom de toute la rédaction.
Non, parlez pour vous. Hein.
Non,
allez, d'accord,
je vous assure qu'elles sont très belles.
Okay, okay.
Donc, le titre de la plus belle paire de fesses de musée est celle que l'on peut admirer au musée du design de Gand en Belgique. Un rapide coup d'œil sur Internet devrait vous permettre de la découvrir très facilement. Elle est très belle.
Ouais, le musée du design de Gand en Belgique, voilà. On a eu chaud. Et on termine, Damien, avec des reprises surprenantes qui nous viennent du Québec.
Ah oui, alors vous me parliez de mon week-end. Voilà, ça c'est ma découverte de ce week-end. J'avoue que j'étais un peu à passer à côté de ce chanteur québécois qui s'appelle, alors on ne rigole pas, c'est très sérieux, il s'appelle Navé Confi. Alors ce n'est pas une nouvelle tête. Navé Confi fait partie de la scène musicale indépendante canadienne depuis plusieurs décennies. Il a sorti de nombreux albums. Et durant le confinement, Navé Confi, il a fait du tri dans ses archives, comme beaucoup d'entre nous. Résultat, aujourd'hui, il vient de sortir non pas un, mais 10 albums d'un coup, à partir de maquettes ou d'inédits qu'il gardait précieusement dans son studio d'enregistrement. Et parmi ces 10 albums, l'un d'entre eux a particulièrement retenu notre attention. Il s'intitule « Cover de rêve », reprise de rêve pour ceux qui ne parleraient pas anglais. Navé Confi y revisite des chansons cultes, comme par exemple la chanson 12 d'Henri Salvador, le titre « Wicked Game » de Chris Isaac, ou encore « Pendant que les chants brûlent » du groupe Niagara. Écoutez.
Pendant que les chants brûlent, j'attends que
petit côté inquiétant quand même dans cette version. Et puis il y a une reprise qui nous a particulièrement plu, en tout cas qui m'a particulièrement plu. Je vous propose de terminer ce journal avec ces quelques notes. C'est tellement connu que je vais même pas vous donner le nom du groupe ou le titre de la chanson d'origine. On va faire un blind test, Pascal. Je pense que vous allez le reconnaître très vite, ce titre.
Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages, fait briller le soleil.
Oui, c'est pas très compliqué, hein.
Ah, c'est pas très compliqué, mais...
Ça fait rire les oiseaux de la compagnie créole. Et alors, dites-moi, Navé Confi, maintenant, il s'appelle Navé Déconfi, non ?
Oui, c'est ça, ouais.
Depuis quelques semaines, voilà.
Depuis quelques semaines, il est obligé de changer.
Merci, merci beaucoup, Damien Caprespin. Et rendez-vous demain, musique sur Europe 1. Voici Revival par Gregory Porter.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Il paraît que Philippe Starck l'appelait « mon cerveau ». C'était il y a bien longtemps, depuis Nathalie Crasset a emprunté d'autres voies, mais peut-être que sa démarche tient de ça. Penser et penser encore avant de faire, que ce soit des objets, des meubles ou des lieux. Avec cette légère obsession pour les lampes, les kiosques, les hôtels ou les cabanes dans les arbres, penser davantage à la vie qu'au design. Bonjour Nathalie Crasset.
Bonjour.
Bonne fête.
Oui, c'est vrai. C'est
la Saint-Nathalie aujourd'hui. Donc je me permets de vous souhaiter une bonne fête. Comment êtes-vous passé de Nathalie à Matalie ?
C'est un phénomène assez simple en fait. Les enfants m'ont prononcé Matalie avant Nathalie. Donc en fait, petit à petit, dans mon cercle familial, on m'a appelée Matalie tout simplement parce qu'on avait entendu un enfant m'appeler Matalie. Et voilà, c'est devenu petit à petit mon prénom.
Ça vous correspondait mieux ?
Voilà, ça me correspondait beaucoup mieux.
Ouais. Puisqu'il faut trouver des mots, parfois, comment vous définissez-vous ? Vous, qu'est-ce que vous dites de votre activité ? Vous êtes designer, vous êtes designeuse, vous le mettez au féminin, designeuse industrielle, comment dites-vous ?
Je vais laisser chacun le faire, en fait. Moi, je n'ai pas d'indication précise. C'est vrai que j'ai une formation de designer industriel, mais de plus en plus, je définis mon travail comme designer, puisqu'en fait, j'interviens aussi, pas simplement sur de l'objet, mais plus de l'espace aussi, beaucoup plus, et même de l'architecture maintenant, la micro-architecture, enfin l'architecture à échelle humaine.
Quelle définition pour votre ou vos activités ? Vous voyez, je commence par cerner les choses. Est-ce que metteuse en scène de la vie, ça vous irait ?
Oui, j'aime bien en fait essayer de réimporter certaines notions comme l'hospitalité, le partage. C'est vraiment pour ça que je dessine des nouveaux lieux et même les objets sont aussi peuvent transmettre en fait ces intentions. En fait, voilà. Donc l'idée avant de parler de forme et de matière, moi, ce qui m'importe, c'est de trouver une intention. C'est ce qu'on donne en fait en final aux gens et ce que permet en fait l'objet, l'espace dans lequel on va vivre tout simplement.
Ouais, et c'est pas évident de... Je pense que votre activité est assez mal connue et les gens savent pas très bien ce que c'est, ce que vous faites.
Non.
Est-ce que c'est important de faire découvrir votre activité ou alors vous tracez votre chemin et puis les gens vivent dans ce que vous créez ?
Oui, alors il y a une évolution quand même. On sait maintenant que ça existe, le métier designer. Après, on a tous une pratique très très différente. Donc c'est ça qui fait la richesse en fait de ce métier. On va avoir une approche artistique aussi. Donc on va convoquer différentes choses en fonction de sa personnalité. Et donc il y a plein de façons de définir le design. Si on veut donner en fait une définition globale, ça va être d'essayer d'améliorer l'habitabilité du monde. Alors aujourd'hui, il y a du boulot. Hein. Il y a plus que du boulot.
On va parler de ça parce que... Oui, voilà. C'est un point majeur, et effectivement. En vrac et sans chronologie, Nathalie Crasset, je prends certaines de vos réalisations. Il y a vraiment tout. Une lampe pour Ikea, un manège pour enfants, un camion musée, un hôtel en Tunisie, un kiosque à journaux, ou bien les lunettes que vous portez là ce matin, comme tous les jours. Quel point commun, diriez-vous, entre tout ça, la démarche ?
La démarche, oui, c'est simplement, c'est pas la forme qui me porte. Je vais pas prendre mon crayon pour dessiner une jolie forme. Non, mais c'est à travers les lunettes, par exemple, comment les lunettes vont nous permettre le matin, quand on va les porter, tout simplement, d'appréhender le jour qui arrive. Comment, à un moment donné, ça peut nous donner confiance. Comment on va véhiculer un certain nombre de valeurs qui nous sont chères. En fait, c'est tout ça, le design.
Mmh. Est-ce que votre vision, on parle des lunettes, est-ce que votre vision du métier a beaucoup évolué depuis que vous le pratiquez ? Je crois que ça fait une petite trentaine d'années.
Oui, alors en fait, je suis sortie de l'école avec un projet assez fort autour de l'idée de travailler sur les scénarios de vie. Et en fait, je m'aperçois que c'est resté la même chose aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais parler plutôt de nouvelles logiques, puisqu'en fait, le design peut accompagner justement un certain nombre d'acteurs à trouver ces nouvelles logiques qui sont essentielles aujourd'hui.
Oui, vous étiez la seule à agir comme ça, parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment cette particularité-là. Quand on pense designer, si on doit garder ce mot, souvent on pense à une marque, quoi, enfin une façon de faire. Vous, pas du tout. C'est pas ce qui vous importe, en fait.
Non, c'est pas ce qui m'importe. En effet, le premier objet que j'ai fait, c'était en tant que mobilier, par exemple. C'était quand j'y monte à Paris, donc c'était un lit d'appoint avec une colonne d'hospitalité qui prend peu de place, et puis on va l'ouvrir et puis on donne l'hospitalité même si on n'a pas beaucoup de place chez soi. Et voilà, c'était en fait ça. Et ça, c'était complètement extraterrestre en fait quand je l'ai sorti.
Parce que c'est pas spécialement beau.
Voilà, c'est pas beau.
Enfin,
c'est pas une forme,
plus,
voilà,
mais
c'est une colonne, mais je voulais pas mettre l'accent sur une beauté rajoutée. C'est la beauté de l'hospitalité. Alors comment on arrivait en fait à faire comprendre? Déjà, en plus, l'objet était fermé au départ, donc on comprend pas vraiment que c'est un lit. Voilà, donc c'était... Et c'est pour ça que simplement, je suis partie sur cette idée d'appellation. Quand j'y monte à Paris, on commence une petite histoire, un petit scénario, et c'est comme ça que le fil est proposé. Mmh. On peut tirer le fil pour comprendre de quoi il s'agit.
Quand j'y monte à Paris, a déjà 20 ans d'ailleurs. Hein.
Oui, peut-être même un peu plus. J'ai du mal avec le temps qui passe.
Ouais. Avec la temporalité, mais enfin, il continue à être fabriqué.
Oui.
Il y a des gens qui, chez eux, quand ils reçoivent un ami, ont... Quand Jim monte à Paris, qui est, c'est difficile à la radio, hein, comme vous le disiez, un rouleau qu'on déplie,
oui.
pour pouvoir dormir en lit d'appoint, avec tout ce qu'il faut, une lampe...
Un petit réveil matin.
Un petit réveil matin, voilà. Donc ce sont des tranches de vie que vous proposez.
Oui,
réalité.
C'est créer des espaces. Donc l'objet peut servir à ça, créer l'espace. Moi, je n'ai jamais travaillé l'objet tout seul, posé, sans interaction avec le contexte dans lequel il vient. Et bien sûr, avec la personne qui va l'utiliser, ce qui m'importe, c'est ça, c'est vraiment travailler sur le global. Et donc, même l'objet, il est ancré dans un espace, il interagit. Et donc, et le plus simple, c'est de travailler sur nos rituels, parce qu'on fait tous la même chose. On a un fond commun, en fait, de rituels. Et c'est là-dessus qu'on peut se baser pour créer des choses, on va dire, innovantes.
Mmh. On va investir quelques lieux où vous avez sévi dernièrement. En votre compagnie, imaginez quelques façons de vivre. Mathalie Crasset est dans Culture Média ce matin. Ne bougez pas, on revient.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
À chacun son lieu de confinement plus ou moins heureux, à chacun sa façon d'y faire face. Et pour le coup, c'était un bon test. Vous, tant qu'à faire, Mathalie Crasset, vous étiez dans un lieu que vous aviez redessiné, un ancien corps de ferme près d'une forêt. Et du coup, forcément, vous avez eu le temps de tester et savoir si ce que vous aviez imaginé collait à la vie.
Bien sûr,
alors...
c'était un temps long, ce qui est assez intéressant justement, le confinement. Moi j'ai une vie qui est assez mouvementée, je voyage beaucoup et donc d'un seul coup là, je me retrouvais dans un lieu ensemble, puisqu'on était une douzaine de personnes à confiner ensemble et entourées de la nature au printemps. Donc c'était formidable, c'était un temps que offert en fait sur la vie quotidienne. Et,
vous l'avez pris comme une chance.
Et voilà, je l'ai pris comme une chance, je pense que avec Francis et Arthaud, on a choisi de...
Alors Francis, votre mari, Arthaud,
voilà.
Votre fils, je décode. Hein.
Voilà, on a choisi de sortir de Paris et d'aller chez une amie, donc...
Michel.
Et voilà, et c'était formidable et j'ai... Bizarrement, je me suis mis à dessiner. J'explique que dans mon process de création, je ne passe pas par le dessin parce que j'aime bien penser, avoir une image mentale avant de dessiner. Mais là, je pense que j'avais besoin d'extraire un certain nombre de choses que j'avais gardées au fond de moi-même. Et ça a été un temps où j'ai beaucoup dessiné. J'ai rempli des carnets de petits dessins.
Quel genre ?
Des petits dessins imaginaires, beaucoup de... c'est très compliqué à expliquer. C'est souvent des portraits de un peu futuristes, un peu oniriques plutôt, je dirais. C'est peut-être ça le terme plus.
Et on verra ces dessins, je crois.
Voilà.
Vous allez le publier,
J'ai les Presses du Réel m'ont proposé de publier ces dessins. Et depuis, j'essaie d'en faire aussi des petites animations parce que je trouve que c'est il y a une richesse dans ces dessins. Peut-être que j'aurais plus l'occasion de repartir comme ça à l'aventure dans les fins fonds de mon imaginaire et j'ai envie de concrétiser et d'en faire des petits supports très légers, très, très oniriques. Petit à petit.
Vous parliez d'extraction, vous avez dit j'ai eu besoin d'extraire ça. Donc, est-ce que ce sont des choses qui demandaient à sortir et faute de temps, ça ne sortait pas enfin...
Oui, parce que je pense que le dessin, c'est comme l'écriture, il faut des temps longs, il faut avoir le temps de se poser. Puis il y avait une certaine atmosphère, je dois dire, pendant le virus, il y avait une tension, puisqu'il y avait quand même un certain nombre de. Il y avait des inconnus, donc ça a été vraiment prolifique pour faire en sorte de se remettre en question et puis aussi de convoquer son imaginaire, tout simplement.
Ouais, est-ce que l'espace, ce qui veut tout dire, mais quand même en dire beaucoup, enfin, c'est difficile à estimer l'espace, mais est-ce que c'est une notion qui fait partie intégrante de votre travail, Mathilde Crasset?
Oui, bien sûr. Par exemple, pour dessiner, j'étais dans la salle principale, mais en même temps, j'étais un petit peu à l'écart. Il y a une mezzanine qui est en fait une espèce de grand regard porté sur la forêt. Et voilà, c'est un peu cet endroit, par exemple, dans l'endroit où j'étais pour me confiner, que j'ai choisi pour dessiner. Et je pense que ça a eu beaucoup d'influence aussi sur la façon dont j'ai dessiné.
Et quand vous créez des lieux, vous faites attention à vous imaginer déjà comment on va utiliser cet espace. C'est ça votre façon de faire ?
Oui, c'est plus une façon de créer des potentiels parce que je ne veux pas imaginer tout. Je pense que la vie, elle est plus riche que ce qu'on peut imaginer. Donc, c'est plutôt faire en sorte d'avoir une plateforme, en fait, d'avoir des potentiels qui puissent émerger.
Exemple,
et de rien, et plutôt au contraire de retirer des normalités, retirer. Voilà. Donc, c'est pouvoir bouger les choses, c'est pouvoir inventer. Un certain nombre de choses et pouvoir bouger les éléments. Donc, je travaille beaucoup avec des systèmes donc,
modulables. Ouais.
Voilà, je travaille aussi avec des systèmes de plateforme. Donc là, ça veut dire qu'on a un certain nombre de... Là ça ne va pas bouger, mais en même temps, la plateforme permet de l'investir de différentes façons, par exemple. Donc c'est un peu ma façon de faire. Et surtout, ce qui est important, c'est l'interaction entre les gens, c'est-à-dire comment on va se sentir quand on va être dans ce lieu et comment d'un seul coup, peut-être alors quand c'est un hôtel, on va quitter le rôle qu'on est en train de jouer la plupart du temps pour être soi, parce que ça c'est important aussi.
Mais vous avez des surprises évidemment. Vous ne pouvez pas tout prévoir, ça vous dépasse.
Oui, mais les surprises, en général, elles me dépassent dans le bon sens. C'est-à-dire, j'ai pas d'exemple où, en fait, le projet que j'ai proposé, alors c'est un peu prétentieux de dire ça, mais elle est dans le sens inverse de... Non, parce que c'est en quelque sorte, on acquiert une expertise petit à petit, et puis j'ai fait beaucoup de projets expérimentaux qui m'ont permis justement d'alimenter et d'aller valider certaines configuration, organisation, qui fait que maintenant, à l'âge aidant, j'ai une certaine expérience de ce que ça peut donner et des conséquences que ça a sur le vécu. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Comment le vécu s'inscrit dans un lieu.
On va continuer de parler de tout ça. C'est pas facile à la radio, mais on y arrive quand même. En prenant des images. Oui, c'est bon, il est la nuit. Allez, on y va, la pub.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Et nous sommes toujours en compagnie de Mathilde Crasset, l'une des designeuses françaises les plus renommées dans le monde. Si l'on y pense, Mathilde, quelle a été l'influence du lieu de votre enfance? Parce que je trouve ça intéressant de dire que vous êtes né dans un tout petit village de moins de 1000 habitants.
80, on va dire.
Ah oui, ah oui, carrément moins de 1000. Alors oui. 80 habitants, donc voilà. Vos parents étaient agriculteurs, donc vous aviez bon, très peu de densité, mais vous aviez l'immensité des champs. Donc ça a dû vous marquer,
oui,
ça.
Oui, c'est fondateur de vivre à la campagne parce qu'on a un rapport avec la nature, mais aussi parce que j'étais dans un petit village, donc c'est une petite communauté. Et depuis, j'essaie de retrouver un peu cette échelle parce qu'aujourd'hui, on a un peu peur de vivre en société. Par contre, on sait ce que ça veut dire vivre en communauté. Et on a besoin de se réassurer sur la connaissance de l'autre, mais aussi dans l'idée de déléguer et de faire en sorte qu'on fasse confiance aux autres.
Et en plus, vous êtes, vous avez grandi à Normé.
Oui, ça ne s'invente pas.
C'est quand même un comble pour quelqu'un d'aussi anticonformiste que vous. Si ce n'était toutes ces victimes du virus, tous ceux qui en souffrent ou qui en souffriront encore, peut-être que ce Covid, cette crise-là, pourrait être l'occasion de faire évoluer le monde. Par exemple, prenons les villes. Hein, on a vu tous ces gens, on les voit encore, tous ces gens serrés dans les villes. Est-ce qu'il y a moyen, à travers votre activité, de lutter contre ça? Comment faire?
Alors, c'est compliqué, mais en fait, j'ai pris cette décision, en effet, d'impacter le projet. Et je l'avais déjà fait avant. En fait, je n'ai pas attendu le Covid, de concentrer mon énergie justement sur l'idée d'apporter des nouvelles logiques et de proposer. Alors par exemple, ce que je propose pour l'intérieur, c'est justement de pouvoir aussi le bouger. Et on voit que quand une crise arrive et qu'on est obligé de rester chez soi, et bien ça permet justement de faire jouer l'enfant à un endroit où, et de remplacer le canapé. Enfin, toutes ces logiques, je les avais déjà inscrites dans mon intérieur.
C'est-à-dire
et donc en fait, c'est
fois,
déjà... Ouais. Voilà. Alors il y a le domestique, mais il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur de la ville. Et ça, c'est aussi important. Donc, on va rechercher de plus en plus la présence de la nature en ville. Ça, c'est évident, parce qu'on en a besoin. On a besoin. Ça nous réassure dans ces temps incertains. Mais bien sûr, il y a toutes les questions de mobilité. Moi, je suis très, très, très agréablement surprise sur la façon dont ça évolue à Paris et le fait que voilà, il y a de plus en plus de vélos. Moi, je circule en vélo et je vais de plus en plus loin en vélo. Je n'ai pas un vélo électrique, mais en même temps, ça me permet de garder la forme.
Mmh. Et l'habitat, quand même, il y a des vraies questions sur l'habitat.
Oui.
Comment est-ce qu'on peut continuer à vivre comme ça, serrés
voilà.
les uns sur
Alors
les
moi,
je
n'ai pas travaillé sur l'habitat en ville, mais je fais un projet en ce moment avec un bailleur social qui est une maison individuelle. Alors, c'est un projet qui est susceptible d'être implanté à plusieurs endroits, puisque l'idée, c'est de créer une maison hors site. Donc, elle est en fait fabriquée puis installée et en bois. Et l'idée, c'est de... Et je me suis dit, aujourd'hui, si on veut construire en fait une maison industrielle, la légitimité, c'est d'y apporter en fait une petite serre qui va être devant, qui va être attachée à la maison et qui va nous donner en fait un rapport au végétal, puisque ça peut changer énormément de choses en fait. C'est encore une fois aujourd'hui quelque chose d'assez simple à mettre en pratique. Et le fait de cultiver, même si c'est peu des légumes chez soi nous permet de changer notre regard par rapport à notre alimentation quotidienne.
Donc c'est quelque chose. Ça sert.
Voilà, c'est un peu comme si on prenait le jardin ouvrier et qu'on venait le coller en fait à la maison. Et bien sûr, c'est pas suffisant pour l'autonomie, mais en même temps, il y aurait un jardin partagé pour un groupe de maisons à côté. Voilà.
Mmh. On l'a dit tout à l'heure, Mathilde Crasset, avant de vous lancer, vous pensez, vous conceptualisez, disons, la chose. Ensuite, vous dessinez. Après quoi, c'est pas fini, vous choisissez les bons matériaux et si les bons artisans ou ouvriers, c'est de A à Z vos projets, ça c'est gratifiant, non ?
Oui, c'est très intéressant parce qu'il y a une certaine complexité, mais en même temps, en fait, si on veut résumer un peu ce qu'on fait et surtout ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour arriver à faire cette transition socio-écologique, en fait, l'idée c'est vraiment d'avoir un regard critique. Et ça, tout le monde peut l'avoir. C'est pas simplement le designer. Mais le designer, en fait, et c'est pour ça que j'appelle mon métier aussi quelque part l'idée de faire le pas de côté et avoir ce regard critique
sur quoi
sur le contexte dans lequel on va intervenir et trouver comment agir pour améliorer l'état de la chose. Et en fait, c'est plus une capacité qu'une compétence, on va dire, professionnelle. Et après, on va combiner ce sens critique avec de la créativité. C'est-à-dire comment, à partir de ce contexte, je vais pouvoir projeter quelque chose qui n'existe pas et en même temps en y associant quelque chose que je peux nommer du sens pratique, c'est-à-dire comment, avec une approche pragmatique, cette chose qui n'existe pas, je peux la rendre existante assez facilement. En fait, c'est un peu ça. Donc, vous voyez, c'est un savoir-faire qui est assez intéressant, mais on peut partager un certain nombre de choses. Le sens critique, il faut qu'on l'ait tous. C'est pas simplement le créatif qui doit l'avoir. Après, le geste créatif, ça, c'est quelque chose de beaucoup plus particulier à partager.
Vous avez du pouvoir quand même.
On a le pouvoir. On a le pouvoir de. Ouais, on a le pouvoir.
De
comment dire qu'on
choses.
Se donne.
Voilà. Oui. Et
on
fait,
a le pouvoir. Voilà.
Et de fait, vous donnez beaucoup de pouvoir, vous.
Non, moi, je suis pas intéressée par le pouvoir, dans le sens où je pense que ça, le pouvoir, ça amène les mauvaises parties de l'homme, en fait. Vous voyez ce que
oui,
je veux
oui,
dire
mais...
dans le sens où voilà.
Alors, c'est pas le pouvoir pour le pouvoir, mais oui. Vous avez le pouvoir de changer les choses.
Oui, on a le pouvoir de proposer, et ça, c'est, et on a le pouvoir d'inviter aussi. Et ce qui est important aussi dans notre métier, c'est cette notion d'affordance, c'est-à-dire comment on fait une invitation naturelle pour que les gens puissent
s'y inscrire
et s'y reconnaître, tout simplement.
On va arriver aux indispensables de Culture Média, recommandations culturelles sur le mode fait de tourner. Vous pourrez jouer aussi. Mathalie Crassé, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Et les indispensables de Culture Média. Bonjour Margot Barallon.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous conseillez une mini-série australienne sur Netflix. Ça s'appelle Stateless.
Et il faut imaginer ce qu'on appelle, vous savez, l'outback australien, l'arrière-pays, ces immenses étendues de poussière rouge, canardées par le soleil, atmosphère moite. Et au milieu de ça, donc au milieu de pas grand-chose, hein, un centre de rétention pour migrants qui va servir de décor principal à la série.
Les centres de rétention australiens correspondent à une politique migratoire sophistiquée. Ils permettent d'identifier les demandeurs d'asile et de vérifier que leur requête est légitime, tout en préservant la sécurité et l'ordre.
Voilà, la femme qu'on entend dans cet extrait, c'est Claire, la directrice du centre.
Flippante,
clairement flippante. Au début de l'histoire, elle arrive tout juste en même temps que trois autres personnages. Il y a Cam, un Australien embauché comme gardien, et deux détenus, Amir, qui vient d'Afghanistan, et Sophie, qui a une histoire un petit peu particulière, et surtout qui est une femme blanche, et c'est important pour la suite, c'est la seule du camp dans ce cas. Et c'est donc en même temps que ces quatre personnages qu'on va découvrir peu à peu l'organisation du centre de rétention et ses résidents.
Tu vois cet homme-là ? Il est là depuis 7 ans. Il veut partir, mais aucun pays ne veut de lui. On ne doit pas devenir comme lui. On doit partir d'ici.
Voilà, on commence quand même à percevoir qu'on va être plus souvent chez Kafka qu'au pays des kangourous.
Et derrière le divertissement, Margot, on devine une série engagée.
Oui, et l'équilibre est d'ailleurs bien trouvé. Évidemment, Stateless, c'est avant tout une série accrocheuse, tournée quasiment en huis clos, donc avec vraiment une tension dramatique, bien menée de bout en bout. Il n'y a que 6 épisodes, donc intrigue resserrée. Vous avez envie de savoir comment, pourquoi ces personnages sont arrivés dans cet enfer, s'ils vont parvenir à en sortir. C'est certes parfois un petit peu prévisible, mais on a aussi des personnages intéressants. Même les méchants supposés, Claire, la directrice si flippante, elle a aussi droit à ses doutes et ses atermoiements.
Je ne sais pas ce que je fais là. J'ai l'impression d'aller d'une crise à l'autre et si je me plante, c'est moi qu'on tiendra pour responsable, pas le ministère.
Voilà, et on l'entend, hein, c'est donc aussi une série très politique. Elle a été coécrite, et ce n'est pas un hasard, par l'actrice Kate Blanchett, australienne, mais surtout très engagée dans la cause des réfugiés. Et elle a voulu, avec Stateless, montrer en fait comment l'inertie administrative engendre des drames humains. Vous avez des migrants qui deviennent de simples numéros, qui n'existent quasiment pas aux yeux d'un État australien défaillant. Stateless, mot à mot, c'est l'absence d'État. Et ces dossiers qui s'empilent, qui ne sont jamais traités, eh bien, ce sont des gens qui vont rester enfermés, parfois pendant des années, avec potentiellement de grossières erreurs, puisqu'on comprend très rapidement, je ne vous spoile rien, que Sophie, la jeune femme blanche, est en réalité une Australienne interné par erreur dans son propre pays.
Et ça, c'est assez invraisemblable.
Assez invraisemblable et pourtant c'est vrai, puisque la série s'inspire d'un fait divers qui a secoué l'Australie, c'était en 2004. Une hôtesse de l'air a fait une crise de schizophrénie, les policiers sont intervenus. Comme elle n'avait pas de papier, qu'elle tenait des propos complètement incohérents, à moitié anglais, à moitié en allemand, eh bien ils l'ont envoyée dans un centre de rétention semblable à celui de la série, et elle y est quand même restée 10 mois avant que sa famille ne la retrouve.
Incroyable.
Alors à l'époque, ça avait engendré ce qu'on pensait être, en tout cas une prise de conscience dans le pays, l'État avait présenté des excuses. Les Australiens, et c'est toujours drôle de voir que ça vous touche au moment où ça concerne quelqu'un qui vous ressemble. Les Australiens ont saisi l'urgence de revoir la politique migratoire. Sauf que, eh bien, 16 ans plus tard, en réalité, pas grand-chose n'a bougé. Et c'est justement pour ça aussi que Stateless est une série nécessaire.
Et à voir sur Netflix. Merci beaucoup, Margot Barallon, pour cet indispensable. Ça donne envie, ma télécrasse.
Oui. On va regarder.
Vous avez un coup de cœur récent, vous, dans votre domaine ou dans un autre?
Oui, je voulais parler de musique, en fait, avec Compromat, qui est en fait une association de Vitalik et de Rebecca Warrior, qui est la chanteuse de Sexy Sushi.
Ah oui.
Et voilà. Et en fait, c'est la musique qui m'a accompagnée pendant tout le confinement, et ça me rappelle en fait la musique industrielle berlinoise, parce que j'ai été un peu bercée quand j'étais jeune à cette musique, enfin, pas bercée en fait, quand j'avais une vingtaine d'années, et voilà, donc
bah,
et c'est en allemand, et en fait c'est très, très surprenant, et ils ont sorti à peu près 10 titres, et ça s'appelle Traum an Existenz, Und Existenz, c'est l'allemand.
Avec Adèle Haenel, me dit-on, ça s'écoute. Ça a l'air bien. C'est d'industriel quand même. Hein
non, ce titre-là est un peu plus doux en fait, en effet, puisque c'est un sujet assez sensible et en effet, il est chanté par Adèle Haenel. Mm-hmm.
Mathalie Crasset, il nous reste quelques minutes. Vous avez beaucoup, beaucoup de projets. Votre agenda est booké jusqu'à au moins 2052.
Enfin, c'est Francis qui s'en occupe de mon agenda.
C'est Francis. Alors, qui est donc ce Francis dont on parle? Qui est donc ce Francis Fichot, votre muse? J'ai lu ça dans Le Monde.
Oui, c'est la part cachée en fait de l'organisation de notre petit studio qui est en fait un petit studio de design artisanal, mais qui est essentiel.
Voilà, un projet qui vous tient plus à cœur que les autres en ce moment?
Oui, alors y a juste un projet à aller voir.
À part Francis, je veux dire. Oui, bien sûr.
je voulais juste parler de deux choses, en fait. Un projet qui a à voir une exposition. J'ai participé à une exposition collective à Cognac pour la Fondation Martel et j'ai créé une cuisine à terrasse. Ah, donc, c'est un peu compliqué, une cuisine un peu comme les cultures en terrasse. Là, l'idée, c'est de faire une cuisine à terrasse. Donc, en fait, l'idée, c'est de rappeler qu'il y a une similitude énorme entre le fonctionnement des microbes de la terre et notre microbiote à l'intérieur du corps.
D'accord.
Et donc, je propose cette cuisine sous forme d'une plateforme avec un énorme garde-manger en dessous cette plateforme, puisqu'elle est inclinée. Et en fait, ça forme comme des gradins où on peut se poser de différentes façons. Bien sûr, ça intègre un comptoir pour cuisiner. Et après, au-dessus, on a une plateforme pour partager et pour, bien sûr, être ensemble, déguster la cuisine.
Voilà. Il vous reste 10 secondes à peu près pour le second projet.
Et voilà. Mais le second projet, ce serait simplement de dire que je vais maintenant aussi faire de plus en plus d'actions avec les EPV, sont les entreprises de patrimoine vivant, parce que je pense que j'ai beaucoup collaboré à l'international pour être designer. Et en fait, on a sur le territoire national beaucoup d'entreprises qui se battent pour continuer à fabriquer en France. Je vais nommer juste les quelques entreprises avec qui j'ai collaboré.
Ouais,
Pradier, Maison Berger, Tissage Moutet et Atelier Missègle. Je les accompagne en ce moment pour faire leur extension et l'aménagement de leur bureau dans le Tarn et j'en suis ravie.
Voilà, ça c'était au moins une page de pub qui avait de la gueule. Merci beaucoup Mathalie Crasset d'être passée par Culture Média et bonnes vacances à vous.
Merci Pascal.
Dans un instant sur Europe 1, vous découvrez la première page d'un nouveau roman de la rentrée. Mais oui. Première page promise, première page tenue ce matin, vous découvrez celle de Sexy Summer de Mathilde Allais, apparaître chez Flammarion. quitter Bruxelles. Quitter Bruxelles, changer de boulot, se désabonner de la télé. Quitter Bruxelles, partir au vert, prendre le vélo, manger bio. Quitter Bruxelles. Des rêves comme ça, on repassera. C'est la manière minuscule de voir les choses quand on devient vieux. Placer la barre à hauteur de nombril, se fixer pour ciel le plafond de la cuisine. Un peu avant Noël, les ritournelles changent de ton. Les parents ne disent plus « et si ?» au début des phrases. Les rêves se muent en listes de choses à faire aimanter au frigo, résilier, revendre, désinscrire, transférer. Un matin chaud de juillet, la vieille Opel roule sur un pont d'autoroute majestueux qui promet des sommets. Quelques kilomètres après, elle s'encaisse. Déjà le bitume paraît loin. Les passagers tressautent. Les parents se marrent. C'est les autos tamponneuses en vrai, sauf qu'ils sont tout seuls. Après le pont, sortie 13, l'Opel s'enfonce au creux d'une vallée sans montagne. Les sapins tiennent lieu de relief. Un panneau indique « Varqueville ». Les parents disent « Que c'est beau !» Et c'est là. Sexy Summer de Mathilde allait apparaître chez Flammarion à la rentrée. Culture Média, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à partir de 9h. Nous serons notamment en compagnie de la comédienne humoriste Mela Bédia. À suivre, Anne Roumanoff, le best-of sur Europe 1. Belle journée à vous. Buvez, buvez. Bon, de l'eau essentiellement. Hein. Je ne vous embrasse pas. À demain.
Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.